quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, c'est Arnaud.
Salut, moi c'est Fabien.
Nous sommes en juin, le mois où on ne se couche pas parce que... Parce que en juin, on joint les deux bouts. Bon, et vous écoutez papa, à quoi tu joues ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 44e épisode de Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvrent une petite porte sur la culture vidéoludique. Aujourd'hui, j'ai comme à mon habitude Arnaud avec moi. Bonjour Arnaud.
Salut.
Et ça va, il fait chaud et à chaque fois qu'on se pose cette question, à chaque fois nous parlons systématiquement de météo. Et à chaque
c'est
fois
ça,
que je réécoute les émissions, c'est dingue, je ne sais pas pourquoi. David n'est pas là, mais on a trouvé au pied levé un remplaçant de qualité en la personne de Fabien. Bonjour Fabien.
Bonjour tout le monde.
Ça va bien ?
Ça va bien, il fait chaud.
Voilà. On va faire un petit retour rapide sur ce qui s'est passé le mois dernier. Rien. Donc, on va pouvoir enchaîner. il n'y a pas eu beaucoup de retours. J'ai discuté un petit peu avec des gens sur Twitter, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Donc, si jamais vous voulez qu'on vous dise merci pour avoir mis 5 étoiles sur iTunes avec un joli commentaire, il y a vraiment pas de souci. Ah mais si, j'ai oublié, j'ai mon écran 4K. Il est là, il est devant mes yeux. Et pour ceux qui ont accès, donc les tipeurs et ceux qui regardent Twitch. Quand on fait les lives, eh bien, vous voyez que je suis un petit peu plus beau que d'habitude puisque j'ai une nouvelle caméra également qui, ma foi, est de qualité. Elle ne paye pas de mine, hein, on voit toute l'électronique, tout ça, il n'y a pas de boîtier, mais je lui ai fait un petit coffrage en bois et ça fait une image vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, parce que c'était mon anniversaire et j'ai été gâté. Voilà, il est donc temps de passer au jeu du mois. Alors, les jeux du mois, je vais commencer avec Outlast 2. J'espère ne pas trop vous faire peur. Papa, à quoi tu joues numéro 8 ? C'était il y a 3 ans, jour pour jour, et dedans, pendant qu'Arnaud parlait encore une fois de Lego, je vous conseillais Outlast, qui est aujourd'hui encore un de mes jeux de la flippette préférée. Alors forcément, quand un second opus a été annoncé, j'étais content. Et quand il est sorti, le 25 avril dernier, j'étais très content. Je me suis précipité dessus, d'autant qu'il était économiquement abordable pour un jeu qui vient tout juste de sortir du four. Alors, je lance Outlast 2 en espérant revivre une aventure terrifiante et éprouvante. J'y retrouve les mêmes bases. Un mec incapable de faire quoi que ce soit sans avoir une caméra vissée à l'œil, le mode vision de nuit de cette même caméra avec la torche infrarouge qui vide la batterie à vitesse grand V, c'est bon de rentrer dans ses chaussons. Le décor a changé. Fini l'asile, bonjour l'Amérique reculée et isolée. Deux reporters vont en hélico au milieu de nulle part après qu'une jeune femme enceinte ait été retrouvée avec un incroyable taux de mercure dans le sang en parlant d'un endroit où l'on pratiquait des choses étranges puisqu'elle s'était enfuie pour ne pas que l'on tue son bébé. On parlait des mamans en début d'émission, voilà un exemple. Comme ça a l'air fun, nos deux amis décident donc de louer un hélico pour aller là-bas. Bon, une fois l'hélico en train de survoler la zone, gros flash de lumière, crash de l'hélico, la base quoi. Donc notre Zozo se réveille par terre sous une tôle d'hélico, il s'en extrait pour vite récupérer sa précieuse caméra à quelques mètres de lui et l'aventure commence. Pas de traces de sa copine reporter ni du pilote. Enfin le pilote ça va pas durer longtemps, il est mort attaché avec du fil barbelé pas loin. S'ensuit donc une aventure dont le but va être de retrouver Bobonne pour la reperdre, pour la re-retrouver. Le tout dans un contexte de village perdu qui croit que l'Antéchrist arrive bientôt, conduit par un prêtre. Le village est conduit par un prêtre gourou au gras infini, et un autre groupe est mené par une nymphomane psychopathe. Et ils s'aiment pas, les deux groupes. Nous, on est au milieu en train d'essayer de pas se faire tuer et aller récupérer Bobonne, parce que eux aussi ils veulent récupérer Bobonne chacun. Bon, je vais être honnête, j'ai pas spécialement adoré le jeu, hein. Je le trouve inadapté à ma personne. Mais je vois les qualités qu'il a à me proposer. Seulement, bah, ça prend pas sur moi. Et je me dis que peut-être je suis un cas particulier qui commence à être blasé par les jeux de la flippette. Parce que oui, l'oppression, elle est présente. On en est souvent poursuivi, acculé. Il faut fuir. Seulement, je me suis retrouvé quelquefois à ne pas savoir où fuir et donc à tout simplement abandonner la fuite, préférant recommencer. On peut se cacher dans beaucoup d'endroits, mais à part deux ou trois fois, bah, j'ai pas vraiment eu besoin de le faire. On a un micro aussi pour amplifier les sons, pour identifier les menaces derrière les murs par exemple, pour pas être surpris, voilà. Ça sert seulement quand on apprend à s'en servir, et puis une seconde fois un peu plus loin dans le jeu. Bref, les passages flippants m'ont agacé plutôt qu'autre chose. Par contre, l'horreur, elle, est bien présente. Pour les fans de choses dérangeantes, il va y en avoir pour tous les dégoûts. Le jeu peut fortement déranger. Alors soyez prévenus, hein, je veux pas vous spoiler ce que vous allez voir, mais déjà quand ça touche aux enfants, c'est touchy quoi. Donc voilà, il y a vraiment à vomir et à manger, à vomir et à dégueuler. Il va de soi qu'il est à réserver à un public 18+ et à des sessions de jeux nocturnes afin d'éviter toutes les visions d'images perturbantes pour les enfants, parce que oui, je l'ai dit, il y en a plein, hein. Le jeu sauvegarde assez régulièrement pour ne pas trop être pénalisé quand on éteint et quand on reprend. De toute façon, généralement, on arrête de jouer après une action éprouvante, et c'est là aussi où le jeu décide de sauvegarder, généralement. Donc, pas de souci. Le jeu utilise beaucoup la religion pour sa trame principale, mais aussi pour sa trame secondaire. Le personnage principal aura des flashs régulièrement qui le ramèneront au collège catholique revivre un drame de son enfance. Des phases de jeu qui sont, à mon sens, pas particulièrement réussies, parce qu'elles sont quand même beaucoup déconnectées de la trame principale. Tout cela nous amène donc à la fin du jeu, qui est pour le moins décevante. Il faudra être sacrément armé pour comprendre quoi que ce soit de cette fin, et même en général le jeu lui-même. Hein. N'espérez pas comprendre une once de ce qui se trame si vous n'avez pas fini le premier. Et je vous conseille vivement de le faire, hein. Mais même lorsque cette condition est remplie, c'est loin d'être évident, et il vous faudra avoir épluché tous les documents du premier jeu et ceux du second pour élaborer vos propres théories. Mais comme je suis un gars sympa, je vous ai mis un petit lien dans les notes de l'émission vers l'explication de la fin de ce jeu vraiment étrange. En définitive, c'est un jeu que je vous conseille si vous êtes fan du genre. Il n'a pas très bien fonctionné sur moi, mais possède de très bonnes qualités, et quand on connaît le fin mot de l'histoire avec les explications, le tout prend une tournure plutôt digeste. Voilà, c'est un bon jeu. Il est moins bon que le premier, avec son DLC inclus, mais même sans. Hein, c'est un bon jeu, voire un très bon jeu. Hein. Il vous en coûtera 27,99€ pour 6 à 8 heures de jeu d'horreur et 2 ou 3 frissons sur Windows, PS4 et Xbox One. A noter que le pack Outlast Trinity sur console, qui coûte entre 30 et 35€, vous donnera accès à Outlast, son DLC et Outlast 2. Donc pour ce prix-là, il serait dommage de passer à côté si vous êtes étranger à la franchise. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, messieurs, si je vous ai convaincu.
Bah, pas tant que ça, il est quand même pas.
Il est bien, mais c'est.
Si bon, quoi.
Mais c'est... Alors, si, moi. Il est bon. C'est je juste qu'il n'a pas fonctionné sur moi.
Que Outlast 1, je me rappelle, tu avais vraiment adoré, etc. Voilà. Et là, je ne te sens pas convaincu par ce que tu as vécu. Quoi.
Non, non, parce qu'il a, je t'ai dit, il n'a pas fonctionné sur moi. C'est-à-dire que je vois où le jeu veut en venir. Je vois où il veut me faire peur, quelle mécanique il met en place, etc. Et ça peut fonctionner bien, quoi. Et, ouais, mais
ce que je veux dire par sur moi, c'est non. Que tu dis... D'un côté, pour faire Outlast 2 et voir le propos, il faut avoir fait Outlast 1. Oui. Et ma question est du coup, vu que tu as fait Outlast 1, est-ce que c'est pas pour ça que du coup c'était peut-être trop prévisible et que ça a pas marché
non.
sur toi le
non. non, 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 c'est absolument pas. C'est pas dans ce sens-là, c'est pas prévisible, mais c'est que. En fait, je me suis dit, à un moment dans le jeu, je me suis dit, attends, il y a deux trames bien différentes. Et ils n'ont pas voulu choisir, donc ils ont mis les deux. Et ils ont trouvé un truc pour mettre les deux ensemble. Ensuite, je me suis dit aussi que ils voulaient s'affranchir de du 1, c'est-à-dire fini les couloirs, fini. Voilà, là on est en extérieur les trois quarts du temps. Et le but, ben voilà, c'est d'instaurer une peur à l'extérieur. Et bon, ok, ça s'entend. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas parce que je suis très sensible à justement les espaces confinés,
truc. Et puis du coup, vu que c'est plus confiné, que c'est ouvert, voilà. Tu peux te dire que tu peux courir plus vite, plus loin, et du coup, ça te fait moins peur, c'est ça ?
Ben non, mais même pas.
Il n'y a pas l'aspect claustrophobie, quoi.
Voilà, il n'y a pas l'aspect claustrophobie, il y a pas. Regarde, enfin, le truc typique, tu sais, c'est la recherche dans un champ de maïs. On a tous vu ça dans des films.
Mmh. Ouais.
Le mec qui se fait poursuivre par 6-7 gars dans un champ de maïs, et puis il se fait tout petit, il essaye de regarder les lampes torches à travers les rangs de maïs, etc. Machin. Ben voilà, moi j'ai juste cherché à longer le côté du champ de maïs et puis à me barrer, quoi. Alors que tout est fait pour que ça marche. Mais je ne sais pas, ça n'a pas pris sur moi. C'est comme... c'est comme Amnesia. Amnesia, tout le monde dit que c'est le jeu de la flipette par excellence, machin. Mais ça n'a absolument pas pris sur moi. Ce n'est pas mon univers, ce n'est pas mon type de peur, en fait. Et le type de peur de Outlast, le premier du nom, ça, c'était mon truc.
C'est ça, parce qu'au final, tu as un couloir, tu as un nombre d'issues limitées, alors que tu as un truc qui te montre. Voilà. C'est ça qui fait. Je ne sais pas par où aller, je ne vais pas avoir le temps de trouver avant de me faire bouffer, et c'est surtout ça qui te faisait.
Oui, alors que là.
Le frisson, quoi.
Oui, mais là, tu vois, ils ont essayé de garder ça en gardant cette oppression, en gardant. Enfin, pour que tu gardes toujours à l'idée que tu es poursuivi, que tu es traqué. Et les trois quarts du temps, tu es poursuivi et traqué. Mais. Je sais pas, moi, chez moi ça a pas pris. Voilà.
Mais... ça marche pas.
Bah non, voilà. Désolé les gars.
Mais du coup, ça fait penser plus à un genre du type Silent Hill, quoi.
Ben un peu, mais c'est pas construit pareil. C'est pas du tout construit pareil. Au niveau horreur, c'est pas le même type d'horreur, mais c'est bien cracra, c'est bien dérangeant. Mais voilà. Mais je l'ai beaucoup apprécié pour son côté dérangeant, horrifique, etc. Mais pas pour son côté fais-moi peur, chérie, fais-moi peur.
Ok.
Voilà ce que j'en avais à dire. Fabien, parle-nous un peu de End of Fate. Si tu le veux bien.
Oui, je veux bien. donc End of Fate, c'est un jeu qui est sorti le 17 février 2015. Qui est sur PC, PS4, Xbox One, Vita, Mac, enfin sur toutes les consoles sorties, ce qui existe, je pense. il s'agit d'un mélange entre jeu de cartes et JDR papier. Donc voilà, si ça peut plaire à des gens, ce genre de jeu. On commence en fait dès le début du jeu, on est lancé dans l'aventure avec le maître du jeu qui est en face de nous. Qui nous dit qu'on va jouer à un jeu pour essayer que nous on vainque. On vainque, je crois. tous les adversaires que lui il a, donc le maître du jeu. Alors les adversaires, ça se base sur un jeu de cartes en fait. Donc tu as les valets, dames, rois, je ne sais plus s'il y a l'As, je ne pense pas. Je crois qu'il y a juste Valet, Dame et Roi.
Oui, il me semble.
Alors, il y a 12 ennemis comme ça, donc 12 boss, entre guillemets. Donc, ça fait qu'il y a 12, comment dire, 12 aventures qu'il va falloir faire. Donc, 12 histoires à faire. Avec à la fin, toujours le boss. Donc, qu'il soit la Dame, la Valet ou le Roi. En sachant qu'il y a des rois de sable, de peste et de... Et un autre, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc, c'est tous des ennemis différents, qu'ils soient de la peste et ainsi de suite. Ils sont tous différents. Donc, le but, ça va être d'affronter les 12 boss durant notre périple, durant notre aventure. Alors, ça se déroule comme un jeu de cartes, je vais pas dire classique, un peu quand même. On va nous disposer des cartes sur... un autre jeu, une table de jeu, et avec un pion qui va être notre joueur, qui va devoir se déplacer de carte en carte. Alors les cartes ne sont pas disposées aléatoirement, donc ce sera un chemin toujours tracé selon le boss qu'il va y avoir à affronter à la fin. Mais les cartes que vous allez retourner au fur et à mesure de votre périple, ça va être toujours des cartes aléatoires, ça ne sera jamais... des cartes, il n'y aura jamais deux aventures identiques en prenant le même boss en fait. Alors tout peut se dérouler sans accro, vous pouvez tout passer sans aucun souci, pardon. Mais vous pouvez aussi avoir de la malchance et devoir, par exemple, affronter des hommes rats durant votre périple. Alors le nombre d'adversaires est toujours aléatoire, entre guillemets, ça va de 2 à 6, je pense. 2 à 6. Donc, vous pouvez affronter des ennemis comme ça, des ennemis de peste. Comme en fait, c'est comme pour les dames et les rois, ça va toujours être des ennemis de peste, et ainsi de suite. Alors, niveau combat, ce sera toujours... ça va être du combat à la façon Batman Arkham, si vous connaissez. Donc ce sera des combats où il va falloir parer, des combats toujours avec deux touches, que ça soit carré ou triangle. Les ennemis sont assez nombreux, on va dire qu'ils augmentent au fur et à mesure. C'est tout. Il va aussi avoir une question de chance, comme les JDR papier. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on vous dit une chute de rocher survient au-dessus de votre tête. Que faites-vous ? Enfin, que faites-vous ? Vous ne pouvez que fuir, entre guillemets. Et vous allez devoir piocher 4 cartes qui vont être réussite, grande réussite, échec ou grand échec. Évidemment, le nombre d'échecs et de réussites, ça dépend de l'événement qui survient. Donc vous avez pioché une des cartes, si c'est une réussite, vous réussissez aussi bien, une grande réussite autrement, et ainsi de suite. En sachant qu'il y a moyen d'à peu près deviner où se trouvent les réussites et les grandes réussites dans les cartes que vous devez piocher, parce qu'en fait, elles se mélangent devant vos yeux, donc vous pouvez deviner à peu près où se trouvent les réussites. Je dis bien à peu près, parce que moi, j'y suis jamais arrivé.
Ben non, il y a que la carte du dessus que tu peux...
Oui, c'est ça, mais bon, enfin, voilà. Il y a moyen de deviner, on va dire. Il y en a qui arrivent, moi, j'arrive pas. Donc, c'est pas une question comme on peut retrouver dans les vrais JDR papier, c'est pas avec des dés où on vous dit sur 20, non, c'est 4 cartes, réussite, grande
en fait,
réussite.
À la place du dé, en fait, t'as les cartes.
C'est ça.
Voilà, ouais. C'est ça, exactement.
Tu as pioché une carte, c'est dans laquelle tu peux éventuellement deviner où est la bonne carte.
C'est ça. Mais également, qu'est-ce qu'on peut retrouver par rapport à la chance ? Parfois, on peut vous demander de traverser une rivière, et en fonction de votre équipement, je ne sais pas si toi, tu y es déjà arrivé, Jean, mais en fonction de votre équipement, si vous avez une armure légère, moyenne ou lourde, vous aurez peu ou plus de cartes réussites, en fait.
J'ai jamais fait gaffe.
Tu pourras faire le problème des armures de plate, des paladins. Tu peux pas nager avec.
Voilà, c'est un peu... J'ai déjà fait le test avec une armure lourde. Sur 4 cartes, vous n'aurez qu'une...
C'est un malus de moins 7 ou de moins 9 au dé que t'as. c'est un truc horreur. Enfin, c'est un horreur. Donc, c'est le même principe, quoi. C'est que t'as moins de chance, du coup, pour réussir.
Voilà, c'est ça. Donc, vous aurez, avec l'armure lourde, une carte réussite, deux cartes échec et une carte échec critique, en fait. Ouais. alors, en fonction, vous avez aussi des cartes d'événements, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut vous demander un marchand, vous retrouvez un marchand près de la route, il semble blessé. Et en fonction de ce que vous faites avec lui, vous pouvez recevoir un jeton de carte, comme ils disent, à la fin de votre partie. Ou si vous avez réussi ce qu'il fallait faire avec le marchand, vous recevez une nouvelle carte qui va vous amener à un second objectif dans la prochaine partie, en fait.
Voilà, parce qu'au début de chaque partie, en fait, on construit ses decks.
Voilà, c'est ça.
Et c'est ça. Alors, du coup, c'est ça ma question. Ça a l'air. Au niveau séquence, donc tu construis d'abord ton deck.
Alors, t'as deux decks à construire. T'as ton deck d'équipement et ton deck d'événements.
D'accord. Et ça, tu le construis en espérant tomber dessus. Après, c'est ça tombe aléatoire ou tu peux aller récupérer dans les cartes.
Non, c'est aléatoire. C'est aléatoire. C'est comme quand tu joues la bataille, tu pioches ta carte et puis voilà.
C'est ça. Donc en fait, par exemple, tu sais que t'as mis en équipement, je sais pas quoi, mais tu peux pas aller chercher quand on a besoin dans l'histoire. Voilà. Si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, bah tant pis pour toi. Quoi. Ok.
Alors il y a évidemment des cartes bénédiction et malédiction en fonction des ennemis que vous affrontez ou des cartes sur lesquelles vous tombez. J'en ai à peu près compté une quinzaine de bénédiction et de malédiction. Donc il y a forcément le choix. Enfin, le choix. On n'a pas trop le choix justement. Mais vous n'aurez jamais deux cartes bénédiction identiques. D'après ce que j'ai vu, il n'y en a pas deux qui se ressemblent à peu près. C'est toujours des effets assez différents. Par exemple, pour donner un exemple de malédiction, quand vous passerez une carte, donc quand vous avancerez d'une carte, vous perdrez par exemple 5 d'or, parce que vous devez aussi gérer l'or et la nourriture. Donc quand vous passez une carte, par exemple, on peut vous dire vous perdez 5 d'or. Niveau bénédiction, on peut vous dire que vos échecs critiques, attaques critiques font plus de dégâts, par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'effets comme ça, que ce soit dans le combat ou bien dans les effets que vous avez lorsque vous déplacez avec votre personnage. Et en tout, il y a à peu près 3 niveaux, en fait. Lorsque vous avez un niveau, ça se compose de 3 étages. Et un étage fait 4 ou 5 cartes que vous devez parcourir, en fait.
En fait, c'est comme un plateau de jeu, mais avec des cartes retournées.
C'est ça.
D'accord, ok. Mais du coup, les cartes que toi, tu pioches, t'en as combien en main?
On n'a pas de cartes en main, entre guillemets. On a que des cartes d'équipement que l'on reçoit au fur et à mesure de notre cheminement dans les étages.
D'accord, en fait c'est une pioche automatique qui vient.
Oui. Voilà, c'est ça.
Mais du coup, la question, c'est que par exemple, tu es enfin, je sais pas si c'est réaliste ce que je dis, mais tu es en combat, tu as besoin d'une carte d'équipement ou ça serait chouette d'avoir la carte d'équipement pour réussir le combat. Tu ne l'as pas et au final, tu n'as pas d'aide. Tu peux réussir le combat quand même ou il est perdu d'avance?
Mais ton.
Il y a toujours moyen de réussir.
Oui, ton combat, il est déterminé par ton skill.
C'est ça. Par exemple, pour
le skill de joueur ou le skill de papier, parce que
non, je veux dire, ton skill de joueur, toi, c'est toi qui dirige ton personnage et qui va taper sur les autres.
D'accord, donc tu peux quand même réussir à esquiver les attaques, etc., même si t'es pas aidé, quoi.
Mm-hmm. C'est ça. Tu peux finir un niveau entier sans changer d'équipement que tu n'as au départ, en fait. Ça va être plus compliqué, mais il y a moyen, en fait. Il y a moyen.
Okay. Après, en tant que joueur, tu peux réussir à esquiver, attaquer, etc. Le combat il va peut-être être un peu plus compliqué,
c'est ça,
mais tu peux quand même réussir à le combattre. Il n'est pas perdu d'avance, c'est ça que je veux dire.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Okay.
Et sinon, ben, on a une douzaine de boss, un boss à chaque fin de donjon. Les boss sont assez difficiles, on va dire. Plus vous avancerez, plus les boss vont être difficiles. Je parle surtout du dernier qui m'a demandé beaucoup de... Il m'a fallu 2 heures pour y arriver au bout, parce qu'à force de mourir, j'ai commencé.
Oui, ben.
Donc voilà, donc 2 heures pour battre le dernier boss. Malgré ça, et là je vais en venir à ce que je reproche au jeu, La durée de vie est très 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 courte pour moi.
Ah merde.
Parce que j'y suis arrivé au bout en 10 heures, 2 heures en fait. Et pour un JDR papier qui se veut assez, je ne vais pas dire libre, mais disons que pour un JDR papier, on pourrait s'attendre à plus, mais il y a aussi un mode infini en fait, où vous descendrez donc les étages jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que vous mouriez. Et ben là, vous pouvez faire ça jusqu'à votre mort. Hein. Donc, si vous... En fait, la durée de vie est infinie avec le mode infini. Si vous vous contentez que du mode histoire, ce que moi je fais parce que le mode infini ne m'intéresse pas, vous en aurez pour 10-12 heures. 10-12 heures, on va dire. En sachant que j'ai joué au mode normal, donc il y a un mode facile, normal et difficile. J'ai joué au normal, 10 heures. Donc voilà.
Ouh, moi c'est bien, moi je trouve 10 heures.
Bah oui.
Je trouve que c'est pas si mal. Après, il est pas. Enfin, là je suis sur Steam, il est pas si cher non plus, quoi. Donc. Et il est à $20 canadiens, donc.
Ouais, bah 19 euros en France. Ouais. Enfin, 20 euros.
Putain, 20 euros alors que nous c'est $20. Vous savez que le dollar est à 1,50.
Je sais. Ouais.
Ça me paraît étrange quand même, je vois.
Sinon, il reste encore un DLC que j'ai pas acheté à 5 euros. À 5 euros, qui ajoute des cartes et des modes de difficulté, il me semble. Ça, je vais le prendre par après, pas tout de suite. Et sinon, il y a End of Fate 2 qui est annoncé pour 2017.
Ouais, c'est ça.
Je vais l'acheter. Là-dessus, hein, y a pas de question à se poser. Parce que, mais c'est vrai que moi, je trouve que le temps de jeu est un peu bas. Maintenant.
Mais c'est parce que t'as du temps, toi.
Alors, pour te dire, j'ai fait ça en trois séances de jeu, en
D'accord.
fait.
D'accord.
Parce que j'ai dévoré le jeu, quoi.
Ouais.
Je voulais le dévorer et malheureusement, quand je l'ai fini, je me suis dit « Merde, j'en veux plus, quoi !»
Alors que moi, j'ai fait les trois premières aventures en trois sessions.
Ah ouais. Donc voilà.
Non, quatre, parce que la troisième, je l'ai recommencé.
tu as déjà tu as appris quelle difficulté, toi ?
Normal, j'ai rien changé.
D'accord, ok. Bah, toi, on aura pour 10-12 heures, ouais. À mon avis. Il faut savoir que le jeu donc, n'est pas ultra difficile. Il est accessible à tous. C'est pas Dark Souls ou quoi. C'est un jeu accessible. Voilà.
Ok.
Parce que j'ai fait le tour. Donc, c'est 20 euros.
Écoute, ouais.
Au niveau du scénario, justement, et du côté narratif, comme on disait au début de l'émission, c'est bien.
En fait, c'est... Moi, je trouve ça assez bizarre, mais c'est rigolo.
On affronte le maître du jeu, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
Si c'est un adversaire, en fait.
Donc, c'est en même temps un jeu de cartes où tu as un adversaire et en même temps un jeu de rôle où cet adversaire te dicte une aventure.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aventure qui est dictée, c'est ça que je veux dire, c'est que l'aspect narratif, parce que c'est ça que moi j'aime bien
dans les
jeux de rôle papier, c'est que, enfin voilà, c'est tout l'aspect narratif, tout l'aspect
l'aventure, c'est que
scénario et rebondissement qui sont intéressants.
Donc tu as ce maître du jeu, en fait, qui te met au défi et qui te dit, tu ne battras jamais mes 12 serviteurs, parce que tu n'es pas le premier à venir me défier et donc viens me défier au travers de cette aventure et tu réussiras à me défaire si et seulement si tu viens déjà à bout de mes 12 serviteurs.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un aspect vraiment scénario, rebondissement
Oui, mais aléatoire. Ouais, parce que
oui,
en fait,
c'est aléatoire à cause des cartes, en fait.
Oui, voilà. Tu fais une sorte de voyage. Donc, comme l'a dit Fabien, hein, t'as plusieurs étages. Donc, sur le plateau, t'as des cartes et tu navigues de carte en carte. Chaque carte sur laquelle tu vas, elle se retourne. Elle déclenche un événement ou un... bénéfique ou maléfique, et à un moment la carte ce sera les escaliers où tu pourras aller à l'étage suivant, etc. et donc tu vas aller à une rivière, dans un canyon, tu vas aller dans un hall au trésor gobelin, tu vas, enfin voilà, bref.
Ok.
Voilà. Donc, on vous a conseillé donc Outlast 2 si vous êtes bon public pour avoir peur ou si vous n'êtes pas bon public pour avoir peur, juste pour vous faire juste pour voir des choses horribles parce que c'est bon des fois. On arrive à la fin de cette émission qui a été une fois de plus bien remplie et on l'espère forte en information et vous a abreuvé de tout ce que vous vouliez. Fabien, dis-moi, toi, tu es sur les internets, on peut te retrouver, on peut, tu fais plein de choses.
Ma douce voix.
Oui, voilà. Où peut-on retrouver ta belgitude?
Oh pitié, arrête, mais c'est logique. Il fallait pas dire. J'ai un podcast qui s'appelle Les Podcasts du Toucan sur SoundCloud. Mm-hmm. Mais oui, moi je suis resté à SoundCloud, hein, pas d'autres. J'ai diverses émissions, mais actuellement je suis dans ma propre web série qui concerne les jeux vidéo.
Mais je croyais que c'était pas une web série.
On n'en parle plus.
Vas-y, voilà, vas-y.
Ça, c'est ceux qui auront vu le podcast qui comprendront. Voilà.
Vas-y.
Donc, le PNJ qui parle d'une personne lambda, une personne n'importe qui n'y connaît rien aux jeux vidéo, qui devient testeur de jeux vidéo dans une boîte comme jeuxvideo.com. Mmh. On en est à la deuxième saison, on en est à l'épisode 9, donc actuellement, et ça sort tous les 15 du mois. En même temps que Papa a un coin en joue. Voilà. Ben, sinon, vous pouvez retrouver d'autres émissions, mais actuellement, c'est là-dessus que je bosse le plus. Voilà.
Ok. Eh bien, voilà. Quant à nous, vous nous retrouvez eh bien, donc un jour dans Papa à quoi on joue, si jamais vous avez des enfants et que vous voulez jouer avec vos enfants. Sinon, on se retrouve dans un mois pour le podcast de l'été, où je vous conseillerai le jeu de l'été, parce que l'été, c'est les vacances et c'est là où on a du temps. Pour s'investir, parce qu'on le sait, on a de toute façon un été pourri, il va pleuvoir, il va faire de l'orage, donc il va falloir rester à la maison pour s'occuper, et donc je vais vous proposer un jeu dans lequel il va falloir s'investir un petit peu plus, et donc voilà, je suis en train de vous tester ça. Vous retrouvez le podcast sur iTunes, sur herbdis.at, mais évidemment sur papapodcast.fr, là où vous retrouvez toutes les notes de l'émission avec tous les liens qui vont bien si jamais vous voulez approfondir tout ce qu'on a dit au cours de l'émission et notamment au cours des actus. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, si jamais vous voulez échanger avec moi. Et vous pouvez aussi échanger sur Papa Podcast dans les commentaires de l'émission. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Arnaud, je n'ai rien oublié.
Eh bien, écoute, je sais pas, tu généralement sais mieux que moi ce genre de choses.
Eh bien, je pense que je n'ai rien oublié.
Pas dire tout le temps.
Je pense que je n'ai rien oublié, donc on se dit à dans un mois, je fais un bisou à vous et je vous dis un ciao à tous.
Ça marche, allez, bye à tous.
Bye à tous.